merci à mes invités. Je démarre avec vous, Benoît. Alors, est-ce qu'on peut dire que certains, en tout cas, le disent, y compris les scientifiques, que sur ce cas, tout le monde a été pris de court?
Oui, tout à fait. On peut effectivement le dire. Il n'y a eu aucun signe, aucune alerte venant des systèmes de surveillance du volcan. Et le volcan n'a pas du tout prévenu les scientifiques que quelque chose allait se passer. Donc on a vraiment tous été surpris, même si on savait que le volcan Nyiragongo pouvait faire ce genre d'éruption, donc des éruptions qui ne préviennent pas du tout et qui provoquent ce genre de catastrophe.
On sait que les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma ont fait état de manque de financement. Vous pensez que ça peut être un facteur aussi?
C'est évident que l'Observatoire volcanologique de Goma est en sous-financement. C'est quelque chose qu'il faut gérer. Mais dans le cas précis de cette éruption, ce n'est pas le financement de l'Observatoire ni ses capacités de surveillance qui ont été la cause du fait qu'on n'a pas pu alerter la population avant le début de l'éruption.
Alors, professeur Badinzef, il y a différents types de volcans, Nyiragongo et ce qu'on appelle un stratovolcan, n'est-ce pas, et qui est différent d'un volcan bouclier. Pouvez-vous nous expliquer un peu en des termes simples ce qu'est un stratovolcan et ce qu'il est plus dangereux, quelle est sa spécificité?
Alors, un stratovolcan, c'est un volcan qui est stratifié, c'est-à-dire qu'il est formé de couches successives qui se sont construites au fur et à mesure de l'éruption du volcan. Donc un stratovolcan, c'est un volcan qui dure longtemps, qui a une grande vie, qui peut vivre plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années. Souvent, il est très haut et pendant longtemps. Et effectivement, moins facile à gérer parce que ces éruptions peuvent être sommitales, latérales. Donc, comme exemple de stratovolcan, par exemple, il y a l'Etna, qui ressemble au Nyiragongo, parce que lui aussi fait des éruptions au sommet, des éruptions sommitales, des éruptions latérales. Donc, le Nyiragongo, c'est un qui mérite le respect parce qu'il a déjà un certain âge et il a encore de belles années devant lui.
Alors, Benoît Smet, comment est-ce qu'on peut expliquer un peu cette dernière éruption comparée à celle de 1977 et 2002? On a eu, c'est vrai, moins de victimes et moins de dégâts cette fois-ci. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer un peu la différence?
Bon, ça, c'est des choses qui seront probablement déterminées en détail plus tard, quand on pourra analyser plus en profondeur toutes les données qu'on a enregistrées pendant l'éruption. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette éruption, elle est différente de 2002 et de 1977, dans la mesure où en 1977 et 2002, on avait des précurseurs. Il y avait toute une chaîne d'événements, des tremblements de terre dans le rift, des tremblements de terre assez conséquents, une éruption majeure du volcan voisin, le Nyamulagira, qui lui aussi peut potentiellement influencer l'activité du Nyiragongo. Et avant l'éruption, on a eu des tremblements de terre locaux, des explosions dans le cratère principal du Nyiragongo. Et tout ça montrait que quelque chose changeait et que le Nyiragongo pouvait entrer en éruption et faire ses éruptions latérales. Donc ici, dans ce cas de figure, on n'a pas eu ces précurseurs. Et il faut savoir aussi que l'éruption est terminée au sommet, mais l'activité, le magma bouge toujours en profondeur et l'observatoire est toujours aux aguets à ce niveau-là. Donc on a une éruption qui est différente de ce qu'on a vu avant. Donc on est un peu dans l'inconnu ici.
Justement, on est un peu dans l'inconnu. Professeur Badinzef, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prédire les activités d'un volcan?
Alors, on va dire qu'il y a eu beaucoup de gros progrès qui ont été faits depuis les dernières années. On va dire qu'une éruption se prévoit assez bien quand elle débute, c'est-à-dire quand le magma profond monte, parce que ça s'accompagne de micro-séismes, ça s'accompagne de déformations du sol, d'augmentation de température des fumerolles ou des sources chaudes, du débit, des champs magnétiques, des champs gravimétriques. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent et qu'on enregistre. Dans le cas du Nyiragongo, c'est un volcan exceptionnel puisque, on va dire, il est quasiment toujours en activité. Le magma est en surface, c'est un lac de lave, c'est un des rares du monde à avoir un lac de lave. Donc, le lac étant au sommet du volcan, on peut dire qu'il est déjà en éruption. Donc, c'est pas un volcan qui entre en éruption, c'est un volcan qui change comme l'a dit mon collègue, de type d'éruption. Et en fait, ce lac de lave qui est perché, il se transforme un peu comme un château d'eau, il y a donc une pression, et quand il est trop plein, ben, effectivement, il appuie sur le volcan, et donc il sort latéralement, et à ce moment-là, on sait où ça va se faire à quelques heures près, et aussi où ça va se faire, puisqu'on a vu dans le cas présent qu'il y a eu deux coulées, l'une qui va vers l'est au Rwanda, qui ne présente pas trop de danger vu qu'il y a peu d'habitants, puis au contraire, malheureusement, qui va vers le sud, en direction de la région de Goma, qui est très habitée. Donc c'est difficile à gérer, parce que c'est une activité qui est un peu unique au monde, très rare, et c'est une transition du magma sommital qui se sort latéralement.
Disons, Benoît, quels sont les outils? Je sais que c'est une région que vous connaissez bien pour y avoir effectué un travail, disons, remarquable. Comment est-ce que, disons, le monitoring se fait actuellement et comment est-ce qu'il devrait être fait sur la base de ce qui vient de se passer maintenant? Est-ce qu'il y a des changements qu'il faut opérer?
Donc l'observatoire volcanologique dispose de réseaux d'instruments au sol. Donc il y a tout un réseau d'instruments installés autour des volcans. Il y a notamment des sismomètres. C'est généralement le sismomètre, les réseaux sismiques. C'est vraiment l'outil principal qu'on utilise, l'outil majeur qu'on utilise pour surveiller les volcans. Ensuite, il y a aussi des stations GPS. Donc, qui mesure la position de la station, et avec ces stations, on peut voir la déformation du sol. Donc, si le sol bouge, on peut le mesurer très précisément, à quelques millimètres près. Il y a aussi des mesures de gaz. En plus de cela, ça c'est les réseaux d'instruments qui sont au sol. En plus de cela, l'observatoire a le support de plusieurs scientifiques pour des surveillances à partir de l'imagerie satellitaire, et avec l'imagerie satellitaire, on peut mesurer les émissions de gaz, à nouveau les déformations du sol avec de l'imagerie radar, et aussi on peut utiliser de l'imagerie dans l'infrarouge thermique pour détecter les points chauds qui sont liés à de l'émission de lave en surface.
Mais effectivement, on parle beaucoup de la lave, mais il y a aussi les échappées de gaz, n'est-ce pas, qui ont tué au moins 5 personnes.
Alors pour le gaz, je n'ai pas beaucoup de détails sur ces décès, mais il est vrai que les laves du Nyiragongo sont très riches en gaz, comme du dioxyde de carbone ou du dioxyde de soufre aussi. Et ce qui peut arriver, et ce qui arrive souvent dans la région, ce sont des personnes qui arrivent dans une zone où du CO2, donc le dioxyde de carbone, s'est concentré à la surface du sol parce qu'il est plus lourd que l'air. Et s'il n'y a rien pour. S'il est protégé du vent et on est dans des conditions où il peut s'accumuler, on arrive dans des concentrations qui deviennent mortelles. Et qui dit plus de CO2 dans l'air dit aussi moins d'oxygène. Et donc, il est arrivé à plusieurs reprises, le long des fissures de l'éruption de 2002, par exemple, et dans ce cas-ci, malheureusement, que des personnes décèdent par asphyxie liée à ces gaz.
D'accord. Professeur Badinzef, comment est-ce que vous expliquez les nombreuses secousses et même le tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 ressenti dans la ville rwandaise voisine de Rubavu?
On va dire que le volcan s'est remis en marche de façon différente. Donc, le magma interne, on parle de plomberie magmatique, c'est-à-dire en fait que dans le volcan, il y a des couloirs, il y a des cheminées, il y a des filons d'alimentation, on parle de dikes qui se remettent en place. Donc le fait que le magma se soit effondré, que le lac se soit effondré, eh bien le magma bouge un peu partout dans le volcan, il se met en place. Espérons qu'il ne ressorte pas, qu'il va trouver une place bien tranquille pour les années à venir. Et effectivement, cette mise en place, les séismes un peu partout, et parfois à plusieurs kilomètres.
Est-ce que, Benoît, on doit s'inquiéter des fissures qui ont été constatées à Goma, sans oublier, il y a aussi l'autre volcan à côté, hein, le Nyamuragira, dont on parle moins, mais qui est là, n'est-ce pas?
Alors le Nyamuragira ne menace pas directement la ville de Goma, il est en plein milieu du parc national des Virunga, donc il menace principalement la forêt et il faut vraiment des coulées de lave qui soient loin de l'édifice principal pour qu'on ait des routes ou des villages qui soient affectés. Pour ce qui est du Nyiragongo, l'activité actuelle est extrêmement inquiétante. Cette activité sismique, elle se localise dans un axe nord-sud entre l'édifice principal et le lac Kivu, qui lui est de l'autre côté de la ville de Goma. Et donc, toute cette activité sismique, elle est liée en fait à du magma qui bouge, comme M. Barnicef l'a dit, du magma qui bouge en profondeur. Et ce magma qui bouge, il n'est pas très loin de la surface. Les premiers modèles qui ont été faits, qui ne sont pas très précis, mais qui valent quand même quelque chose, disent qu'on est à maximum 5 km de profondeur et on a le sommet de cette intrusion qui est très proche de la surface. Et donc on doit s'inquiéter, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que cette activité sismique liée au magma qui bouge en profondeur va s'arrêter, mais il peut très bien continuer et même s'accentuer au point que la lave reviendrait en surface et potentiellement reviendrait en surface à l'intérieur de la ville de Goma, ce qui serait évidemment une tragédie.
Peut-être une question, professeur Bardinzef. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le climat et le volcanisme dans un sens ou dans un autre?
Indirect. On va dire que le volcan fait partie de l'écosystème, donc il est bien sûr, il interfère avec tout ce qui se passe. Alors, le volcan, des éruptions explosives qui sont expédiées dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, des cendres et des petites bulles de gaz peuvent abaisser la température de quelques dizaines de degrés. Ça s'est déjà vu dans des cas de grandes éruptions. Je pense par exemple au Pinatubo aux Philippines. Inversement, c'est vrai que les modifications climatiques peuvent changer aussi les conditions des éruptions volcaniques dans le cas des volcans sous-glaciaires. Donc, ce n'est pas le cas non plus du Virabongo. Si la glace fond, un volcan peut rentrer plus facilement. Donc, les relations climat, donc, qui sont actuellement, bien sûr, on en parle beaucoup parce que c'est des choses qui nous concernent beaucoup, nous tous les humains. Le volcan a sa part d'intervention. Sur ce, tout à l'heure, on a parlé de gaz carbonique. Mon collègue parle de gaz carbonique et il a raison. Actuellement, le Mirabongo est un gros conducteur. Mais si on prend tous les volcans du monde, ils produisent 100 à 300 fois moins de gaz carbonique que les humains. Donc, les volcans qui produisent ces gaz carboniques nous font un signe peut-être amical en disant nous, on sait tout ce qu'on fait, et vous, les humains, ne jouez pas trop aux apprentis sorciers.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Rufin Munganga, il est à Goma, en RDC. Il nous dit que la situation reste inquiétante à cause des tremblements de terre qui continuent toujours à persister et installent donc la peur au sein de la population. Alphonse Mbouaki est à Kinshasa. Il écrit « Gouverner, c'est prévoir pour anticiper les dangers et les dégâts. Mais nos gouvernants en Afrique manquent cette politique prévisionnelle et mène une politique de réponse en différé après les dégâts causés par les catastrophes naturelles. » Et puis Archiduc Théodore est à N'Djamena au Tchad. Il nous dit que la gestion des catastrophes naturelles doit préoccuper tous les dirigeants africains, car diriger, c'est aussi prévoir le bien comme le mal. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Dugues, à Kinshasa.
Seconde partie de Washington Forum. Je rappelle mes invités à Bruxelles, Benoît Smet, universitaire, chercheur au Musée royal d'Afrique centrale, et à Paris, Jacques-Marie Bardinzef, volcanologue, professeur à l'université Paris-Saclay, auteur de plusieurs ouvrages. Alors, Benoît, est-ce qu'il faudrait déplacer, selon vous, la ville ou en tout cas une partie de la ville? On a 17 villages qui ont été touchés par les coulées de lave. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est la grande question, le grand débat qu'il y a à Goma, et il n'y a pas de solution. En tout cas, il n'y a pas de solution simple. La ville de Goma, elle est coincée entre les volcans qui sont au nord. À l'est, il y a le Rwanda, et au sud, il y a le lac Kivu, et bon, à l'ouest, s'étend la ville, et puis il y a le parc national des Virunga qui, qui vient jusqu'au lac Iou et qui bloque en fait la progression de la ville. Donc on est vraiment on a une ville qui est cloisonnée, qui est bloquée et qui peut grandir en fait uniquement vers le nord, vers le volcan. Déplacer la ville, c'est un peu compliqué. La ville de Goma est un centre économique extrêmement important pour toute la région des Grands Lacs. Et donc, c'était pratiquement impossible et inimaginable de déplacer cette ville. Et c'est d'où là le gros problème. Maintenant, il y a peut-être des options qui peuvent être choisies pour ne pas construire n'importe quoi. Ce qu'on a observé après l'éruption de 2002, c'est que dans les premières années après l'éruption, la coulée de lave du volcan qui a traversé la ville a été utilisée comme terrain préférentiel pour reconstruire les nouvelles maisons. C'était plus facile, la lave avait tout pété, il suffisait de casser et d'aplanir le sol et on pouvait reconstruire des nouvelles parcelles. On a vu, même maintenant, que tant en 1977 qu'en 2002 qu'en 2021, ces coulées de lave ont suivi relativement les mêmes chemins. Et donc on pourrait imaginer que cette zone soit considérée comme la zone la plus à risque pour les coulées de lave du Nyiragongo et qu'on évite de continuer à construire dans cette zone qui est évidemment plus en danger.
Peut-être l'autre difficulté aussi, c'est qu'on sait que ce sont des zones généralement fertiles, n'est-ce pas?
Oui, c'est tout l'attrait des zones forcément... Oui, et en plus dans ces régions tropicales, les sols, donc la décomposition de la roche qui forme les sols, se fait relativement rapidement. Et on se retrouve dans des régions où les sols sont tellement fertiles et avec le climat qu'ils ont, ils peuvent avoir 4 récoltes par an sans problème. Et la nourriture y est excellente. Je vous conseille de manger les fraises de Kibumba. C'est vraiment les meilleurs produits au monde.
Absolument, absolument. Alors, professeur Bardinzef, déplacer une partie de la ville ou interdire les constructions dans certaines zones, cela vous paraît raisonnable ou exagéré?
Oh, c'est très difficile, c'est des enjeux économiques énormes, il y a des gens qui ont des maisons, il y a des industries, donc c'est vrai que c'est une éruption tous les 20 ans, entre-temps, il se passe plein d'autres choses, donc le problème qui se pose à Goma se pose pour plein de villes, il y a plein de volcans dans le monde, avec des villes importantes qui sont sous des volcans, que ce soit au Mexique, aux Philippines, en Indonésie, et comme l'a dit mon collègue, les gens restent et reconstruisent, parce que c'est général, si les villes sont là, c'est parce qu'elles sont utiles, elles se servent au niveau commerce, au niveau industrie, au niveau agriculture, au niveau élevage, donc c'est des lieux d'échange, donc c'est vrai que en plus, sur Terre, on est nombreux, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones à risque, parce que si on prend les risques volcaniques, il y a également les risques sismiques, les risques d'inondation, donc c'est vrai que les zones à risque, il y en a beaucoup, des risques de glissement de terrain, des risques de tsunami, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, si on enlevait toutes les zones à risque, on diminuerait les zones habitables de la Terre, peut-être de moitié, donc c'est effectivement très difficile. Par contre, comme l'a dit mon collègue, on pourrait peut-être essayer de normaliser davantage, des zones qui sont très, très exposées, de les neutraliser, essayer de faire des plans. Donc ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver un équilibre entre les besoins des personnes et puis effectivement les enjeux des risques naturels.
Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de voir comment des situations pareilles sont gérées, par exemple en Amérique latine où il y a aussi des volcans
En Amérique latine aussi, il y a eu des catastrophes. Il y a eu notamment une catastrophe en Colombie en 1985, avec le Nevado del Ruiz. Il y a des volcans au Pérou, au Chili, il y a des villes importantes. Donc, effectivement, il y a des efforts, c'est surveillé. Il y a on essaye de faire des plans pour prévenir les personnes qui habitent, tout ça. Mais bien sûr, il y a quand même des villes qui sont en Équateur. Moi, j'avais suivi une éruption en Équateur en 1999. Il y a une ville au pied du volcan et le volcan est en éruption. Oui, le matin, les gens allaient travailler en vélo, tout ça. Et c'était étonnant de voir que les gens partaient travailler avec en arrière-plan un volcan en éruption. Comme nous, à Paris, on a la Tour Eiffel, quoi. Donc, les gens ont pris l'habitude de vivre avec leur volcan. Il faut trouver un équilibre entre tout ça pour que chacun s'y retrouve et puis qu'on puisse quand même continuer à vivre.
Alors, Benoît, on a vu que le personnel des Nations Unies a été évacué à Goma. Est-ce que vous pensez peut-être que la communauté internationale devrait s'investir davantage sur le cas de Goma?
Je disais donc que la communauté internationale est déjà très investie dans la région Et ce qu'il faut, c'est qu'elle continue et peut-être qu'elle fasse des efforts supplémentaires pour certains aspects, c'est certain, mais l'Observatoire est déjà soutenu, il obtient des financements viennent par exemple de l'Union Européenne ou des Nations Unies, ils ont le soutien d'équipes de recherche, c'est des équipes de recherche par exemple, il y a un consortium belgo-luxembourgeois qui a permis le développement de ces réseaux d'instruments au sol autour des volcans. Donc il y a des choses qui se font et il y a aussi des choses qui se font au niveau de la gestion des risques. Par exemple, la protection civile du Nord Kivu, qui a été créée à la suite de l'éruption de 2002, a des plans de contingence, a des plans d'évacuation. Il y a des groupes de discussion qui existent, qui incluent les scientifiques, les ONG, les autorités locales, qu'elles soient congolaises ou rwandaises même, pour discuter de ces plans d'évacuation. Donc il y a des choses, des infrastructures qui existent. Et on est sur la bonne voie, on va vraiment dans la bonne direction localement. Il y a même maintenant un réseau d'observateurs citoyens qui recense tous les aléas naturels qu'il y a, toutes les catastrophes naturelles qu'il y a dans la région. C'est géré par la protection civile à nouveau. Donc on va dans la bonne direction, il faut juste continuer dans ce sens-là. Maintenant, pour le cas spécifique de cette éruption, on pouvait avoir toute l'organisation que l'on veut. L'éruption a pris tout le monde par surprise et il n'y avait rien à faire. Et quand c'est la panique, l'organisation, c'est impossible d'en avoir une.
D'accord. Professeur Bardinzef, vous pensez que la communauté scientifique devrait s'intéresser un peu plus aux volcans en Afrique, plus généralement?
Je pense que
il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces volcans, mais oui. En termes de mobilisation et de moyens également.
Bon ben, effectivement, il y a déjà d'énormes échanges. L'Inyurambogo est un volcan connu depuis très longtemps. Il y avait Arun Taziev qui l'avait observé dans les années 60, même avant, les années 50. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a des numéros spéciaux de revues internationales publiées, des articles. Dès qu'on est volcanologue, est un volcan de base, donc on le suit. Donc, mais effectivement, ce qui s'est passé récemment, comme dit mon collègue, va faire que ça va renouveler encore l'intérêt et que les collaborations vont continuer. Et effectivement, qu'il y ait des échanges entre les autres continents, bien sûr, c'est nécessaire, mais c'est toujours avec intérêt et avec plaisir que ça se fait.
Alors, peut-être une dernière question personnelle. La recherche concernant les volcans, c'est un sujet passionnant, ça pouvait même faire l'objet d'une émission. Comment est-ce qu'on devrait pousser les jeunes, aussi africains, à s'intéresser au sujet, l'exploration des volcans?
Bon, je pense qu'en tout cas, à Goma, il y a déjà un intérêt qui est flagrant chez les jeunes, puisque à Goma, il y a une université, et à l'université de Goma, il y a beaucoup d'étudiants, notamment en géologie, qui vont faire des stages à l'observatoire dans le cadre de leurs études. Donc il y a vraiment un intérêt majeur qui est là sur place. Bon, je ne peux pas parler pour toutes les régions du monde, évidemment. Je connais bien le cas spécifique de Goma. Donc, il y a un intérêt majeur. Peut-être ce qu'il manque, c'est les infrastructures et les programmes de cours qui soient dédiés à des techniques, des disciplines ou des connaissances qui sont en lien avec les volcans. Maintenant, comme M. Bardinzef l'a dit, il y a énormément de nouvelles technologies qui permettent de travailler sur des volcans. Et en fait, on peut étudier maintenant les volcans de plein de manières différentes. On peut faire des mathématiques, on peut faire de la physique, on peut faire de la chimie, de la géologie, de la géographie, de la géomatique. Il y a moyen d'utiliser plein de disciplines pour aborder les volcans. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a moyen de trouver beaucoup de moyens pour que les jeunes s'intéressent aux volcans.
D'accord. Alors, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie énormément mes invités et à vous qui nous avez suivis sur notre site internet voafrique.com et sur la page Facebook, mais également à travers nos télépartenaires sur le continent, sans oublier toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
Africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ismaël Obiangé à Libreville au Gabon.